Lève d'eau vive.
Amen.
Alléluia. Pour nous inonder. Ça nous fait du bien d'avoir ce fleuve. Puisque c'est ça notre secret. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, il y a quelques jours seulement que je suis là. Bon, je suis venu un peu en urgence. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de contacter les pasteurs de mon église. Bon, mais je l'ai avisé après. Mais ici, il y a le pasteur Kanda, que vous devez bien connaître, qui vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a particulièrement salué le pasteur de cette église. Voilà, j'espère que vous recevez ces salutations avec joie. Amen. Alors nous allons, sans plus tarder peut-être, lire la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour gagner du temps, parce que c'est la semaine et le pasteur m'a dit qu'aujourd'hui, donc, il faudrait terminer, je passe vers 20h30, c'est ça. Alors on n'a pas beaucoup de temps. Nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 6. Nous allons commencer par le premier verset. Et nous allons aller jusqu'au verset 8. J'aimerais que nous tous nous puissions lire ces écritures. Lisons dans le nom du Seigneur. On peut lire l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme. Les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il a touché ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marcherait pour nous ?» J'ai répondu, « Mais voici, envoie-moi. » Alléluia. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses paroles. Nous allons prier, peut-être rester un peu debout pour qu'on puisse prier quand même pour la parole. Dieu, notre Père, tu es un grand Dieu. Tu es tellement grand que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tellement grand que la parole était sortie en disant, « Oh Seigneur, que... » Et qui la parole est sortie pour dire vraiment quelle maison te bâtirais-tu et quel serait le lieu de ton repos, toi qui ne demeures pas dans une maison faite de mains d'hommes. Seigneur, c'est auprès de toi, grand Dieu, que je me retrouve. Je ne suis pas digne, Seigneur, tu le sais bel et bien, de me retrouver devant tes saints et tes saintes, Seigneur. Je te demande de me venir en aide toi-même. de me toucher comme tu avais touché Esaïe, dont il vient d'être question dans les Écritures, Seigneur. C'était un homme aux lèvres impures. Et il était au milieu d'un peuple aux lèvres impures. C'est ce que moi je suis. Tu le sais bel et bien, Seigneur. Et j'ai grandement besoin de toi pour que, Père, ce peuple qui s'est déplacé, ô Dieu, pour venir t'écouter, que ce peuple ne puisse pas être déçu. Mais qu'après avoir été ici pendant ces quelques minutes, chacun puisse retourner dans sa maison disant, « Oh, mon cœur ne brûlait-il pas au-dedans de moi-même, car la parole sortait du haut de la chair. » Permets, Seigneur, que ce soit ici, Jésus. Aide-moi à quitter complètement le chemin pour que toi, tu puisses parler, puisqu'il n'y a pas un autre qui sait parler comme toi, Seigneur. Quand tu étais sur la terre, cela a été bel et bien dit. Jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Parle-nous ce soir, comme tu parlais dans les rues de Galilée, comme tu parlais, Seigneur, à Jérusalem, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Tu n'as pas changé, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tes fils et tes filles voudraient encore, Seigneur, te voir faire des choses comme celles que tu faisais avant la crucifixion. Permets que ce soit ici, Seigneur. Conduis toutes choses et viens étendre ta main afin que les malades puissent être guéris, Seigneur, et que les captifs puissent être délivrés. Seigneur, accorde-nous cela. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Oh, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé, nous qui ne sommes rien du tout, de nous retrouver devant le peuple de Dieu. Vraiment, nous sommes dans le tremblement. Oh, ce n'est pas un lieu très facile pour un mortel. Ce n'est pas un lieu facile pour un homme de péché comme moi. Mais que Dieu nous assiste et je compte sur vos prières. Alors que je serai en train de parler, que vous puissiez continuer à prier pour moi. J'ai grandement besoin de vos prières. Merci Seigneur. Alors, nous venons donc de lire cette écriture. Le prophète Esaïe s'est retrouvé dans une présence inhabituelle. Quelque chose auquel il ne s'attendait vraiment pas. C'est ça notre Dieu. Il est le Dieu de l'inhabituel. Il est le Dieu des choses inédites. Il est le Dieu des choses extraordinaires. C'est à cela qu'il est Dieu. Alléluia. Maintenant, il est inhabituel. C'est ça. Si par exemple, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, nous ne voyons que des choses habituelles. Des choses habituelles, nous pouvons nous demander finalement, est-ce que nous sommes dans la présence de notre Dieu? Est-ce que Dieu est là? Parce que Dieu, il est inhabituel. Parce que Dieu, il est extraordinaire. Wow, nous avons tous les droits de nous poser de telles questions. Oui, sinon, ça devient une religion. Et vraiment, s'il y a une personne qui n'aime pas juste être religieux, je crois que je suis parmi ces gens-là. Amen. Donc, comme nous le savons, la religion, il y a des personnes, par exemple, aujourd'hui, il va prier, là, il aille, là, il aille, là, il aille. Demain, là, il aille, là, il aille, là, il aille. Après demain, là, il aille, là, il aille, là, il aille. Je ne sais pas si ça peut vous fatiguer aussi comme ça me fatigue. C'est vraiment très fatigant comme ça. Moi, j'ai besoin d'un Dieu inhabituel. J'ai besoin de ce Dieu-là extraordinaire. J'ai besoin de ce Dieu-là qui fait des choses inédites. Alléluia. Que Dieu nous assiste afin que vraiment ces choses-là, nous puissions tout le temps les vivre. Alléluia. Alors, donc, il s'est retrouvé dans une présence inhabituelle, comme je viens de le dire. Bon, c'était quelle présence? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est inhabituelle. Alléluia. Alors, c'est ainsi que J'aimerais donner comme thème à cette prédication dans sa présence. Je vais intituler ça comme ça. Dans sa présence, et comme François a dit que dimanche je pourrais encore être là, donc aujourd'hui, je pense que ça ne sera qu'une petite introduction où nous allons montrer qu'est-ce que ça signifie dans sa présence. Et quels sont les avantages que d'être dans sa présence et quels sont les impacts sur ceux-là qui s'y retrouvent. Voilà, on va pas aller très loin, je pense, et peut-être dimanche, si le Seigneur le permet, on pourra approfondir les choses. Amen. Voilà, et dans sa présence, c'est un sujet qui avait déjà été donné à un message de Frère Branham. Ce message est prêché le 9 septembre 62. Donc, il avait intitulé ça de la même manière, dans sa présence. Voilà, ça sera ça. Et alors, je vais commencer par poser des petites questions. La première, deux questions. La première petite question, c'est de savoir qui parmi nous n'a jamais senti la présence de Dieu depuis qu'il a cru. Est-ce qu'il y en a, il peut lever la main. Il n'y a personne. Ça, c'est bien. Alors, deuxième question. Qui parmi nous a déjà senti la présence de Dieu? Voilà. Voilà, c'est tout le monde. Hein? Bon. Alors, j'ai quand même une sous-question. Je vais la poser à mon ami. Abel, la sous-question est celle-ci. Quand tu as senti la présence de Dieu, tu l'as senti combien de fois? Tu peux connaître un peu le nombre de fois que tu as déjà senti la présence de Dieu. Ou c'est tous les jours? Ce n'est pas tous les jours. Donc, il t'est arrivé quand même de ne pas sentir cette présence. Alors, quand tu n'as pas senti cette présence, pour toi, c'est normal ou bien c'est anormal? Tu n'as pas senti, alors ce jour-là où tu n'as pas senti, est-ce que tu as trouvé que c'était normal ou anormal?
Ça dépend de la période. Parfois, je tombe dans une routine. Quand je tombe dans la routine, c'est comme si ça devient normal.
Ah, donc tu trouves que c'est normal quand tu es dans la routine. Et voilà. Et tu n'as jamais trouvé que c'est anormal. Et quand est-ce que. Et pourquoi tu dis. Et quand tu trouves que c'est anormal, pourquoi tu trouves que c'est anormal?
C'est dans une période. Par exemple, quand on sort d'une consécration.
Ok. Bon, ce sont des petites questions juste pour nous amuser un peu. Bon, le terme que j'ai utilisé là, c'est sentir. Sentir la présence de Dieu. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont ça comme préoccupation. Il dit, depuis que j'ai cru, je n'ai jamais senti la présence de Dieu. Surtout qu'il y a des gens qui sont qui ont beaucoup de témoignages, ils témoignent tout le temps. Moi, j'ai vu ceci. Le Seigneur m'a parlé. Mais il y a des gens qui disent, mais moi, je n'ai jamais vu ces choses. Et ça devient tout un problème pour de telles personnes. Eh bien, je pense que ça ne devrait pas être un grand problème pour un enfant de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas toujours quelque chose qu'on doit sentir avec nos sens extérieurs. La présence de Dieu, ce n'est pas toujours un ressenti. Et nous devons savoir que, justement, nous sommes différemment faits. Il y a, justement, Dieu nous a créés comme ça. Dieu n'est pas comme les hommes de ce monde, les entrepreneurs.
qui vont justement fabriquer des milliards et des milliards de voitures de la même manière. Mais Dieu, c'est le Dieu de diversité. Il est vraiment très fort à cela. C'est ainsi que, par exemple, c'est frère Benoît qui est là. Oui. C'est ainsi que je peux vous dire, par exemple, que depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu de Benoît. C'est ça notre Dieu. Amen. Donc, il n'y a eu que Benoît parmi des milliards et des milliards de gens que Dieu a créés, il n'y a eu qu'un seul Benoît. C'est ça la richesse de notre Dieu. C'est un Dieu riche. Il ne peut vraiment pas manquer de diversité. Il y a toujours quelque chose que Dieu a de particulier. Parce qu'il est même dit dans la parole de Dieu que chacun tient de Dieu un don particulier. Un don particulier. Donc, ça ne sert à rien de commencer à jalouser telle ou telle personne. Voilà, celui-là, il est béni. Non, toi aussi tu es béni. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Maintenant, la question, c'est de savoir, c'est quelque chose-là de la part de Dieu. Comment tu l'utilises? Est-ce que tu le mets au service des autres? Parce que la Bible est claire à ce sujet, que ces dons que Dieu t'a fait, tu dois les mettre en service. À service pour les autres. Sinon alors, Dieu va les regretter amèrement. Il va les regretter comme il avait regretté pour ses serviteurs paresseux à qui il avait donné des talents. Il a donné très peu de talents, mais ses serviteurs a dit, voilà, comme c'est peu comme ça, je vais les garder, je vais attendre que Dieu, le Seigneur vienne et soit de retour. Et Dieu n'était pas content de ses serviteurs. Dieu voudrait que nous puissions faire quelque chose de ce que Dieu nous a fait comme don, comme particularité. Et ça, justement, chacun en a. C'est question de savoir quel est ce que Dieu, justement, a fait pour toi, ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a vraiment pas d'anomalie quand tu ne ressens pas. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir des visions. Ce n'est pas tout le monde qui doit attendre de voix audible. Ce n'est pas tout le monde. Et celui qui attend des voix audibles n'est pas supérieur à celui-là qui n'a pas encore attendu. Alléluia. Amen. Alors, je vais donner un exemple. C'est un exemple que nous connaissons dans la Bible. Il y a le serviteur d'Élisée. Hein? Serviteur d'Élisée dans Deux Rois. Deux Rois 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, Deux Rois. Deux Rois 6. Alors ce serviteur, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Il sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Il répondit, « Ça, c'est l'homme de Dieu. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands et sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il y a des choses et des choses autour de nous ici. Il y a, l'écriture est même claire. Là où deux ou trois s'assemblent, à mon nom, je suis là. Est-ce que nous croyons que Jésus est ici maintenant? Il est là. Mais pourquoi nous ne le voyons pas? Mais s'il le veut, il peut nous ouvrir aussi les yeux pour que nous puissions le voir. Le fait que nous ne le voyons pas maintenant avec ses yeux, ça ne doit pas nous pousser à dire que voilà,
Nous sommes malheureux puisque nous ne l'avons pas vu avec les yeux physiques, non? Mais il y a quelque chose. C'est que Élisée, le prophète l'a dit, non, c'est Élisée justement. Élisée lui-même ne voyait pas. Mais Élisée était conscient. Conscient du fait que par la foi, il y a toute cette armée autour de nous. C'est ça la différence. Maintenant, il voulait que cet homme-là puisse quand même voir ça de ses propres yeux. C'est ainsi qu'il a prié pour ce jeune homme qui était le serviteur. Ouvre-lui un peu les yeux afin qu'il voit, hein, qu'il comprenne que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. Puisqu'il y a toujours un ange là-bas, est-ce que moi je suis conscient de ça par la foi? Donc ici, c'est un problème de foi, de la conscience par la foi. Et ce petit terme-là, la foi, c'est vraiment une petite merveille. C'est terrible. Parce que la foi dont nous parlons tout le temps là, c'est quelque chose que nous utilisons tout le temps dans toutes nos affaires de tous les jours. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, les diables combattent la mort. La foi est toujours là. Nous l'utilisons dans beaucoup de nos activités. Par exemple, on a toujours donné cet exemple. Toi, tu es en ville. Bon, tu es un peu en retard et tu dis à la sœur, non, j'arrive tout de suite là, donc je suis un peu dans l'embouteillage. Je vous arrive dans 10 minutes. Mais tu le dis sans réfléchir.
Amen.
Tu ne sais même pas, tu n'as pas réfléchi au fait qu'il peut t'arriver un accident, il peut... Non. Et quand tu le dis déjà, bon, c'est comme si tu as une vision, tu te vois déjà entrer dans...
Alléluia.
Dans la maison. Ça, c'est la foi. Maintenant, quand il s'agit d'appliquer ça dans les choses de Dieu, c'est là le problème. Parce que le diable sait que, justement, si nous tous, nous devons avoir ça comme ça, mais c'est fini. Il n'a plus de boulot. Il n'a plus de boulot. Il nous a raté complètement. Étant donné que c'est clair dans la Bible que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia.
Alléluia.
Amen, amen.
Amen,
c'est cela. Amen. Donc, vous voyez, les problèmes du serviteur d'Élisée n'étaient donc pas de ne pas voir les chars ou les chevaux de feu, mais c'était le fait qu'il n'avait pas conscience. Il n'avait pas conscience du fait que ce qui était avec eux était beaucoup plus fort. Beaucoup plus armés même que ceux qui étaient dans le monde. C'était des armes qui ne sont pas de ce monde. Des chars de feu, des chevaux de feu. C'était ça son problème. Et cela se montre clairement parce qu'il avait peur. Eh bien, un des plus gros ennemis de cette chose qu'on appelle la foi, c'est la peur. C'est la peur et la foi, ça ne peut pas, c'est deux choses qui ne peuvent pas coexister. Quand la foi entre par une porte, la peur quitte par l'autre.
Amen.
Et vice-versa, c'est toujours ainsi. Et le prophète de Dieu a dit ceci, qu'une des choses qui dérange les églises, une des grosses malédictions sur nos églises, c'est cette peur-là. Nous avons beaucoup peur. Et c'est ça. Quand nous avons peur, cela signifie que nous n'avons pas tellement confiance en notre Dieu. Donc, si nous n'avons pas tellement confiance en notre Dieu, donc il y a un peu un problème d'amour là, quelque part. Celui qui aime vraiment, il a confiance. Il a confiance en Dieu. Il a confiance à son épouse. Il a confiance à son époux. Voilà. Il sait, comme je l'aime comme ça, il ne peut pas faire une telle chose.
Amen.
Alléluia. C'est cette confiance que nous devons placer à notre Dieu. Et le serviteur d'Élisée, justement, il avait un petit problème
de ce côté-là, d'amour de Dieu, de confiance en Dieu, puisqu'il y avait la peur. Que Dieu nous débarrasse de la peur.
Amen.
Puisque c'est vraiment un gros, gros démon. Vous vous souvenez de l'histoire de... C'était Gédéon. Gédéon, et Dieu lui dit, en tout cas, le peuple que tu as là, c'est un peuple très, très nombreux. Je ne peux pas travailler avec tout un mélange de ce peuple comme ça. Parce que là, il y avait tout un mélange. Alors, parmi ce peuple, il y avait beaucoup qui avaient peur. Et il faut voir, quand vous faites les calculs, hein, ceux qui avaient peur, c'était les deux tiers pratiquement de l'Assemblée. Donc, je pense que le total, c'était 32 000 personnes, mais une affaire de 22 000 personnes étaient des peureux. Et Dieu a dit, bon, tous ceux-là qui sont craintifs, tous ceux-là qui ont peur, je ne peux pas travailler avec eux. Et Dieu nous assiste en tout cas. Il n'y a que lui qui peut nous débarrasser de la peur. Nous sommes quand même certains. Il n'y a personne qui peut dire, maintenant, moi, je n'ai plus peur. Non, c'est Dieu qui place quelque chose en nous qui fait fuir la peur. Alléluia. Amen. Alors, donc, ici... Et nous allons définir la présence de Dieu, justement, finalement, comme être. Donc, être dans la présence de Dieu, c'est être, ça peut signifier donc être conscient. Vous êtes conscient par la foi de la proximité avec Dieu, de son amour, de sa puissance. C'est ça, comme ça que nous pouvons définir la présence. Donc, être dans la présence de Dieu. Et grâce à cette définition, à partir de cette définition, nous pouvons finalement quand même poser une question. Pourquoi nous cherchons à être dans la présence de Dieu alors que nous savons bel et bien que Dieu, il est omniprésent? Sa présence est partout. Mais comment on peut comprendre que nous puissions... Ça puisse être notre préoccupation, la présence de Dieu. Il faut la présence, il faut la présence. Mais il est omniprésent. Comment nous pouvons répondre à cette question alors? Ah, voilà. Oui, il est omniprésent. Et d'ailleurs, c'est ce que David, on peut lire ça, hein, c'est parce qu'il faut toujours lire la parole. C'est ce que David avait compris, que vraiment Dieu est omniprésent. Dans Psaume 139, on va lire ça. Et on va voir comment le même David s'était comporté vis-à-vis de la présence de Dieu. 139 au verset 7. 7 hein? 39. 7. Où irai-je loin de ton esprit? On ne peut pas se cacher. Tout est mis à nu devant celui-là à qui nous devons rendre compte. On ne peut vraiment pas se cacher devant Dieu. Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. J'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Voilà notre Dieu. Le fait qu'il est omniscient, il est omniprésent. Il est partout. Maintenant, pourquoi nous devons vraiment nous préoccuper de sa présence? Ah, nous voulons vraiment la présence de Dieu. Je vais entrer dans sa présence. Ça devient une grande préoccupation. Oui, ça doit être une préoccupation. De la même manière que, donc, croire à Dieu, c'est vraiment très important pour un chrétien, eh bien, la présence de Dieu, c'est même beaucoup plus important. Il faut que la présence, que nous soyons toujours dans cette présence-là. Mais alors, et Les problèmes n'est toujours pas résolu, mais cette présence et l'omniprésence alors. Voilà. Le même David qui a justement eu affaire à cette omniprésence dit ceci au psaume, dans le psaume 8. Psaume 8, il dit, psaume 8 au verset 1er, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et je vais sauter au 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il est fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Voilà. Donc David, quand il observe la nature, il découvre très vite que c'est Dieu, Dieu est là. Mais quand ce sont les hommes de science incrédules, quand ils font la même observation, ce n'est pas ce qu'ils donnent comme conclusion. Et ils vont dire, bon, tout ça, c'est le fruit du Big Bang. Tout ça, c'est le fruit de l'évolution. Voilà. Mais comment se peut-il que, d'une part, justement, il y a celui-ci, David, qui voit Dieu dans l'univers et ces incrédules-là ne puissent pas voir. Alors qu'il est là, le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le problème, c'est celui-là. C'est parce que David, il avait quelque chose dans son cœur. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, comme le prophète le dit d'ailleurs, pour voir Dieu à l'extérieur, il faut que le même Dieu soit à toi. Amen. Il faut qu'il soit dans ton cœur. Puisqu'en fait, on ne peut jamais voir Dieu. Celui-là, c'est celui-là qui l'a vu, c'est le Fils qui nous l'a révélé. Maintenant, nous pouvons le voir dans sa puissance de résurrection et ainsi de suite, à condition que lui-même vienne dans notre cœur. Et là, qu'est-ce qu'il fait dans notre cœur? Éphésiens nous dit ça. Éphésiens 1, 16. Éphésiens. Je cherche Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, alors au verset 16. Au verset 16, il est dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors, ce sont ces yeux-là. C'est par ces yeux que nous pouvons voir Dieu. Donc, il faut qu'il vienne illuminer ces yeux-là. Et nous allons les voir. Nous allons les voir. Et les gens vont s'étonner. Mais nous, on ne voit rien. Mais nous sommes en train de voir Dieu. Nous les voyons tous les jours de notre vie. Nous les voyons la nuit. Car il ne dort, il ne sommeille autour de nous. Le matin, nous le voyons encore quand il renouvelle ses bienveillances à notre égard. La journée, il est là autour de nous. Nous le sentons. Nous sommes conscients de sa présence. Il nous protège contre des dangers. Mais les gens, quand nous sommes en train de nous réjouir comme ça, ils disent, mais pourquoi ils se réjouissent? Pourquoi ils sont si fous comme ça? C'est parce que, justement, ils n'ont pas quelque chose dans leur cœur. Dieu n'a pas illuminé les yeux de leur cœur. Pour voir Dieu, il faut qu'il soit dans votre cœur. Raison pour laquelle vous ne devez pas vraiment être calme aussi longtemps que Dieu n'est pas encore descendu jusque dans le cœur. Il ne faut jamais vous reposer aussi longtemps que Dieu n'a pas encore tabernaclé à vous. Il faut vraiment chercher cette étape-là. Alors, quand vous avez cette étape, c'est fini. Hein?
La vie chrétienne, ce n'est plus vous. C'est Christ qui vit maintenant. Vous vous reposez, comme Paul pouvait le dire. À un moment donné, Paul a été dans un problème aussi. Le mal qu'il ne voulait pas faire, c'est ce qu'il faisait. Les biens qu'il voulait faire, ne le faisait pas. Alors il a dit, malheur à moi, qui va me délivrer de cette chair de péché. Mais il n'est pas resté dans ce problème. Un jour, il a dit, non, cette fois-ci, hein, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. C'était un homme tout différent. Il pouvait lancer ses amens là, tous les hommes, tous les autres s'étonnaient. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il voit là de spécial? Mais lui voyait quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, en fait, on va pas aller très très loin. Donc, nous sommes en train donc de voir. Alors, il peut y avoir donc des catégories de personnes comme ça, même dans l'assemblée. Et des personnes qui, parce qu'ils ne voient pas Dieu, des personnes qui n'ont pas beaucoup de ces expériences. Bon, le secret est déjà là. Donc, il faut continuer à faire confiance à Dieu, afin que Dieu vienne tabernacler à vous. Alors, je vais retourner à ce que nous avons lu avec Esaïe. Quand, justement, on est dans cette présence, il y a des choses que nous manifestons. C'est ça, justement, que a manifesté Esaïe. Esaïe, il se retrouve dans la présence du Seigneur. La première chose, il dit, « Oh, je suis un homme aux lèvres impures. » Donc, dans cette présence-là, la première chose, « Oh, c'est ça directement un homme sale, un homme pécheur. » On reconnaît qu'on est pécheur dans la présence du Seigneur. Parce que vous pouvez... Comparé avec le premier chapitre, c'est toujours le même Esaïe. Esaïe a écrit beaucoup de choses. Donc, dans le premier chapitre là, c'est toujours le même prophète qui parle. Je vais lire Esaïe 1:16. Qu'est-ce qu'il commence à dire là-bas? On peut même commencer. Oh, bon, je lis juste. Voilà, par exemple, verset 13. Au 12 d'abord. Quand vous venez vous présenter devant moi, quand qui vous demande de souiller mes parvis. Vous voyez, il s'adresse aux autres. Vous toujours, des pécheurs, cessez d'apporter de vaines offrandes. C'est toujours les autres. Hein? Et si on descend au 16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Il n'a même pas dit de mes actions aussi. Cessez de faire le mal. Ça, c'est Esaïe. Esaïe n'avait pas encore eu cette expérience. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est d'abord condamner les autres. Condamner les autres. On a dit, ton tour viendra, Esaïe. Hein? Dieu de la chair, là, ce n'est pas toujours condamner les autres. Puisque toi-même, tu es un homme comme lui. Tu es un homme pécheur. Il n'y a personne qui peut lever son doigt en disant, « Ah, moi, je suis sans péché. » La Bible dit que si tu le dis comme ça, tu es tout simplement un menteur. Et la vérité n'est pas à toi. Alléluia. Nous sommes tous dans cette situation-là. Alors, un jour, comme nous venons de le lire là, Esaïe s'est retrouvé dans une présence. Il s'est retrouvé et dit, hey, « Hé, moi qui ai toujours condamné les autres, mais je suis le premier condamné. Je suis un homme aux lèvres impures. Wow! Je suis un homme aux lèvres impures. Et je suis perdu. Parce que mes yeux impurs ont vu le roi, l'éternel des armées. » Wow! Quand on se retrouve dans cette présence-là, une des preuves que tu es là-dedans,
c'est fini, tu te retrouves pécheur. C'est ça, une des preuves. Tu te retrouves pécheur, tu te retrouves indigne. Et là, vraiment, ça, je vais vous le révéler. Donc, c'est un des calvaires, si je peux l'appeler ici, des prédicateurs. Bon, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à prêcher. Mais je vous assure, quand on se prépare pour venir du haut de la chair, nous recevons des réprimandes terribles de la part du Seigneur. Il y a des moments, mais c'est toujours ainsi. Hein, quand j'accepte, bon, frère François, bon, je viendrai. Par après, je dis, mais pourquoi je l'ai accepté? Mon Dieu! Je me dis, mais par où je vais d'abord commencer? Et des condamnations sur condamnations. Mais toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Et tu penses que tu es digne de te retrouver devant le peuple de Dieu. Je dis, mon Dieu, mais pourquoi moi j'ai accepté ça? Il y a des moments où je dis, mais je peux peut-être lui téléphoner pour lui dire non. Non, je ne viens plus. Mais c'est terrible. J'ai compris qu'il ne faut vraiment pas envier ceux-là qui prêchent la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. C'est ça justement ce qui est dans Matthieu. C'est Matthieu 7. Hein? Matthieu 7, je crois. Je vais voir. Voilà, Matthieu. Matthieu 7, excusez-moi. Ah oui. Voilà, pour celui qui est en train de s'apprêter pour apporter la parole de Dieu, voyez ce que Dieu lui dit. Donc, Matthieu 7, au verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hein? Donc, Dieu a déjà vu cette poutre-là. Toi, tu vas aller avec cette poutre. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Débarrasse-moi de cette chose. Je dis, mais finalement, pourquoi je me suis même mis même cette tâche de prêcher? Ça devient tout un problème. Alors, il continue. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Voyez maintenant ce qu'on reçoit là-bas. Mais donc, parce qu'avant de venir ici, c'est lui qui te prêche. Hypocrite. Tous ces termes-là, il te l'a déjà dit. Comme il avait dit à Frère Branham. Frère Branham veut, après son mensonge, il veut aller prier maintenant pour un enfant qui est malade. Hein? Les termes étaient sortis. Hein? Hypocrite. Ça, c'est le terme que Dieu utilise pour son prophète. Ben oui, puisque c'est lui qui est le chef. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu es justement à l'abri de toutes ces réprimandes. Voilà, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà les choses que les prédicateurs en dirent. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Et j'ai compris tout simplement qu'il ne faut même pas les envier. Ils seront jugés très, très sévèrement. Ils sont déjà jugés ici. Avant de venir du haut de la chair, ce sont des réprimandes comme ça. Hypocrite! Tu as ceci dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas encore dire à mon peuple? Voilà. Dieu a beaucoup de soucis pour vous. Il ne veut pas que n'importe quoi puisse vous être transmis. Parce que vous avez du prix à ses yeux. Alléluia! Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ? Alléluia! Amen, amen! Voilà. Maintenant, vous allez dire, mais ça c'est les prédicateurs. Mais ce n'est pas seulement les prédicateurs. Tout à fait de Dieu. C'était sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, Dieu est toujours beaucoup plus sévère
pour ceux-là qui ont justement déjà eu connaissance de la vérité. Vous le savez bel et bien, même vous qui êtes sur le banc, ce n'est pas la vie chrétienne, n'est pas quelque chose de facile. Hein? Vous pouvez dire, bon, on me dit toujours que bon, la présence de Dieu, moi je ne vois pas. Mais essaie seulement de tomber dans le péché. Tu verras que Dieu existe. Amen. Quand il va commencer à te châtier, comme un père châtie son propre fils, comme un père châtie sa propre fille. Oui, parce que il sait que toi au moins, tu connais quelque chose. Amen. Tu es différent de celui-là qui est encore dans le monde. Alors il va te châtier. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement les prédicateurs, mais parce que tous nous sommes des sacrificateurs. Voilà. Donc nous, chaque enfant de Dieu doit vraiment bien s'examiner et chercher à se sanctifier. Parce que nous avons comme Dieu, le Dieu saint, il s'appelle le Saint d'Israël. Alléluia.
Amen,
amen. Voilà, donc c'est ça ce que nous en dirons tout le temps, nous, enfants de Dieu, et ceux-là qui se mettent du haut de la chair pour apporter la parole de Dieu. Puisqu'en fait, quand il est du haut de la chair comme ça, c'est comme ça. Il y a un gros doigt là qui le fixe. C'est le plus gros de tous les doigts.
Amen, amen.
Alléluia. Et ce doigt-là montre que, mais toi, tu dois d'abord être exemplaire.
Oui.
Tu dois d'abord vivre ta prédication. Amen. Au lieu de venir parler. C'est la vie qui est la meilleure prédication.
Amen.
Il n'y a pas meilleur que la vie.
Amen.
La vie prêche plus que n'importe quelle prédication. Amen.
Amen.
Alors, dans sa présence, c'est quelque chose de très, très important. C'est très important puisque justement, chacun se reconnaît pécheur. C'est ça son importance. Parce qu'il y a, je passe ce proverbe, hein. C'est proverbe 8. Hein. Je vais essayer de voir. Si, je n'ai pas préparé ça, mais je vais essayer de voir si c'est cela, proverbe. Proverbe, c'est 8 ou 28. Erre l'homme. Ah, c'est 28. Proverbe 28, au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, il les délaisse, obtient miséricorde. Le secret de la progression, de la prospérité chrétienne réside dans ce verset-là. Celui qui cache ses péchés-là ne peut pas progresser. Or, si Dieu insiste sur la progression, c'est puisque Dieu veut que nous puissions croître spirituellement.
Amen.
C'est vraiment une préoccupation pour Dieu quand il nous voit tozo kolate. Donc, nous ne croissons pas. Ça fait 40 ans que nous sommes dans le message. Nous sommes toujours ces mêmes menteurs. Nous sommes toujours ces mêmes médisants. Oh, Dieu commence à dire, mais mon enfant, quand est-ce qu'il va quitter cette étape-là? Voilà. Il y a toujours une progression, une croissance. Et quand vous êtes dans sa présence, justement, cette présence-là, c'est ça, le secret qui va vous faire croître. Ça, c'est, nous avons ça dans 1 Corinthiens. Nous allons... Comme nous sommes dans l'introduction, on va terminer d'ici là. Bon, 1 Corinthiens 3 dit ceci. Au verset... Personne. Selon la grâce. Oui. Je cherche. Je n'ai pas prévu ça aussi, mais je suis en train de chercher. Si quelqu'un que ok Celui qui plante. Bon, je vais commencer au verset 6. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Le secret de la présence de Dieu, c'est que justement, quand vous êtes dans sa croissance, dans sa présence, dans la présence de la personne réelle de Jésus-Christ, pas juste un sermon, mais la personne est là, alors il y a quelque chose qui va se passer. Il va vous faire croître. Vous allez croître spirituellement. Ce n'est pas Paul qui peut vous faire croître. Paul est limité. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'aimer. Ce n'est pas Apollos qui peut vous faire croître. Apollos est limité. Tout ce qu'il peut faire, c'est arroser. Mais celui qui fait croître, c'est la personne même de Dieu. Dieu fait croître. Alors, quand vous êtes dans la présence de Dieu, voilà, il vous fait croître. Cette présence-là va vous faire croître. Parce que vous étiez peut-être un homme de la foule. Et bilanda landa. Maintenant, allez, il commence à vous faire croître, vous devenez un disciple. Disciple, c'est comme un étudiant. Ce n'est plus n'importe qui. Parce que de tout le monde ici, s'il y a des élèves ici, bon, il y en a qui sont en train de se préoccuper. Non, je dois aller revoir la matière à la maison. Je dois aller revoir la matière. C'est ça, un disciple. Après avoir suivi, par exemple, cette prédication, le disciple, il va aller à la maison, se poser des questions. Mais pourquoi Dieu, tu m'as parlé ici? Et pourquoi? C'est ça, un disciple. Maintenant, Dieu a continué. Il n'a pas voulu que nous soyons juste des disciples. Puisque il n'y a pas un seul parent qui envoie son fils à l'école pour qu'il soit éternellement un étudiant. Hein? Et nos parents nous ont envoyés à l'école, c'est pour que nous puissions un jour terminer la classe et que nous ayons aussi du travail. Donc, à un moment donné, le Seigneur les a trouvés, il a dit, maintenant, là, je vous ai annoncé tout ce que j'ai appris du Père. Hein? Donc, il a annoncé. Il dit, non, maintenant, c'est suffisant. Maintenant, je ne vous appelle même plus des esclaves. Je vous appelle des amis. Amen. Donc, il nous introduit à ce moment-là dans un cercle d'amitié. Un cercle d'amis de Dieu. Et là, justement, c'est pour nous préparer à être l'ordre des maîtres comme lui. Parce qu'après cela, justement, il a encore regardé ses disciples. Il dit maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie pour que vous soyez des témoins. Alors, ce que je faisais moi-même, vous allez commencer à le faire. Alors, vous devenez témoins. Donc, disciples, amis de Dieu, témoins, alors vous devenez comme le Seigneur. Nous l'avons toujours chanté. Être comme Jésus. Amen. Il veut que nous soyons comme lui. C'est ainsi qu'il aime que nous puissions demeurer beaucoup dans sa présence. Puisque c'est dans cette présence-là, justement, que nous pouvons bénéficier de la croissance. Nous allons croître et passer facilement toutes ces étapes et finalement être comme Jésus. Amen. Alléluia. C'est une introduction. Je pense que nous allons nous arrêter là et nous allons demander que Dieu nous aide afin que nous puissions toujours demeurer dans sa présence. Que Dieu nous aide afin que nous puissions ne pas cacher nos transgressions. Dieu veut que nous puissions confesser nos péchés. Pour que, justement, il puisse nous pardonner et que nous puissions être pardonnés et que nous puissions croître, nous puissions progresser, puisque nous avons lu que celui qui ne confesse pas ses péchés ne peut pas progresser. Nous allons, je pense, nous mettre debout parce que je dois terminer à 30 pour une petite, un petit appel à l'hôtel, l'adoration. Nous nous mettons debout pour demander que Dieu nous aide. Nous allons prier en rapport avec ce que nous venons d'écouter. Tous mes péchés, alléluia, tous mes péchés sont sans. Amen. Oui, tous mes péchés, oh, sont sans. Oui, tous mes soucis, alléluia, tous mes soucis. Mon sauveur les a pris, amen.
Tous mes soucis,
oh mon sauveur. Oui, c'est à la croix. Alléluia.
C'est
à la croix. Alléluia. Amen. Oui, c'est à la croix qu'il a noté. Oh, l'éternité. Alléluia, l'éternité. Où vas-tu la passer? Amen. Oui, oui, l'éternité. Ah oui, où vas-tu? Oh, Jésus t'attend. Alléluia, Jésus t'attend. Oh, viens à ce moment, amen. Oui, 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 Jésus t'attend. Oh, 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 viens. Oh, alléluia. Yeah, alléluia, alléluia. Alléluia, amen, amen. Alléluia, oh, oh, alléluia. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen, amen. Alléluia, oh. Alléluia, oh, alléluia. Maranatha, ranatha, maranatha, maranatha, amen, amen. Maranatha, oh, maranatha, oh, maranatha. Celui qui veut se rapprocher davantage de Dieu, davantage de sa présence, il lève la main et nous allons prier. Moi aussi, je lève la mienne. J'ai grandement besoin de la présence de Dieu. Alors, quand nous allons prier, vous pouvez toujours mimer ça, donc chanter un peu à voix basse. Alléluia. Alléluia, amen, amen, alléluia. Chantez ça à voix basse. Dieu notre Père, merci Seigneur Jésus. Merci pour ce beau petit moment que nous venons de passer, Seigneur. Merci puisque, oh Dieu, tu nous as parlé de ta présence. C'est puisque tu nous aimes que tu nous as montré l'importance de cette présence. Nous avons compris, éternel notre Dieu, que dans ta présence, il n'y a personne qui peut, oh Dieu, bomber sa poitrine en disant qu'il est sans péché. Tous, nous tombons la face contre terre pour dire, nous sommes des hommes pécheurs.
nous sommes perdus, puisque nos yeux ont vu le roi. Oh, nous qui sommes des hommes impies. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous comprenons que celui qui confesse son péché, c'est celui-là qui peut prospérer. Maintenant, Seigneur, nous avons levé nos mains vers toi, puisque nous voulons prospérer, Seigneur. Et nous te demandons de nous aider afin que vraiment nous puissions toujours demeurer dans cette présence. Toi qui avais pu aider David, ton serviteur, qui pouvait dire, oh, j'ai l'Éternel sous mes yeux et je ne chancelle pas. Aide-nous maintenant, Seigneur, afin que partout nous pouvons nous retrouver, que nous puissions avoir l'Éternel sous nos yeux. Puisque quand nous allons t'avoir sous nos yeux, Seigneur, oh Dieu, nous saurons que l'aide de l'Éternel est sur nous. Et cela va nous donner la crainte de l'Éternel, qui est la haine du péché. Aide-nous, Seigneur, afin que ce soit ici. Nous avons vraiment grandement besoin de cette présence. Nous te demandons de nous venir en aide. Toi qui es celui qui avait assisté aussi Esaïe. Oui, nous voyons que avant cela, Esaïe ne pouvait même pas parler de lui-même. Mais il ne faisait que tonner contre les péchés des autres. Il ne faisait que fixer les autres. Mais un jour, il s'est retrouvé dans ta présence. Il a reconnu que c'était un homme pécheur. Il a reconnu que, oh Seigneur, qu'il avait des lèvres impures. Nous aussi, Seigneur, nous reconnaissons cela. Nous te demandons de nous aider. De nous aider à ne plus cacher nos manquements, à ne plus cacher nos péchés. Nous avons tellement de péchés qui nous enveloppent très facilement, Seigneur. Mais nous allons parler comme Pierre, ton serviteur. À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre, Seigneur, irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que toi, Éternel, qui peut nous aider à nous débarrasser de tout. Toutes ces choses-là qui nous enveloppent très facilement. Je te prie pour mes frères. Je te prie pour moi-même, Seigneur. Je venais de l'air, oh Dieu, parler de ce que nous endurons, nous qui avons commencé à prêcher comme ça. Parce que, Seigneur, toi, tu es le Saint d'Israël et tu te préoccupes vraiment, Seigneur, de tes fils et de tes filles. Et tu ne veux pas que n'importe quoi puisse leur être communiqué. Merci Jésus. Merci d'accorder à mon frère, à ma soeur, ce qu'il t'a demandé, à lever sa main. Merci Seigneur, oh Dieu, de le lui donner pour que, car ça sera, oui, au retour, Quand il aura obtenu ce que tu lui as demandé, Seigneur, que ça soit pour lui une occasion de venir te rendre des actions de grâce, afin que toute gloire puisse retourner à toi. Merci, mon Seigneur. Continuez un peu à chanter à voix basse là. Alléluia. Bon, s'il y a des malades au milieu du peuple de Dieu, nous pouvons prier pour que le Seigneur étende sa main parce qu'il est le grand médecin. Il se préoccupe aussi de notre santé, même dans ce corps. Est-ce qu'il y en a? S'il n'y en a pas, c'est bon. Ok. Dieu est mon créateur. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Je vois une main ou quelques autres mains, Seigneur, qui s'élèvent. Je te demande, Père Céleste, toi qui connais les problèmes de mon frère et de ma soeur, tu connais ce qui le fait souffrir. Que, Seigneur, tu étendes ta main. Oh Dieu, vois les sacrifices qu'il a consenti de venir ici. Il est venu ici puisqu'il sait que tu es vivant. Ils sont venus ici puisqu'ils savent, Seigneur, que tu es celui qui guérit les malades. Ils sont venus ici puisqu'ils savent, Seigneur, que, ô Dieu, la guérison divine, c'était aussi ta préoccupation. Et si je te demande, Seigneur, de tendre ta main, afin que mon frère et ma soeur ne puissent pas retourner avec cette maladie avec laquelle il est venu ou elle est venue. Merci de lui accorder la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vous pouvez prier alors chacun comme il a suivi la prédication et après nous allons terminer par là. Chacun peut prier le Seigneur. Et je vais demander que vous puissiez prier pour que vraiment Dieu nous bénisse le dimanche, qu'il nous garde en bonne santé, que nous puissions passer des moments uniques. Dieu notre Père, nous te remercions Seigneur, Dieu de l'univers visible et invisible, pour ces petits moments que nous venons de passer ici. Maintenant Père, tu es venu avec tes fils et tes filles. Ils sont en train de lever leur voix vers toi. Ils ne s'adressent pas à Baal ou à Astarté, mais ils s'adressent à celui-là qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui est le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Quels que soient les problèmes, oui, Seigneur, qu'il est en train de t'exposer, qu'il est en train de t'exposer, tu en as la solution. Merci éternel. Merci pour ces petits moments. Bénis tes fils et tes filles qui sont venus t'écouter. Et sur le chemin de retour, sois celui qui va retourner encore avec nous. Et protège-nous dans nos maisons. Et que, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit avec laquelle tu nous as entourés ici puisse nous accompagner partout. Nous allons nous retrouver. Je te le demande ici au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Je vais demander à Frère Tombeau de clôturer et nous allons terminer. Amen. Que la paix du Seigneur puisse partir avec chacun d'entre vous.